Chapitre 2. 8 ôté de 9, reste 1. Il est une chose que, malgré mes bonnes relations avec Lupin et la confiance dont il m'a donné des témoignages, si flatteurs, une chose que je n'ai jamais pu percer à fond, c'est l'organisation de sa bande. L'existence de cette bande ne fait pas de doute. Certaines aventures ne s'expliquent que par la mise en action de dévouements innombrables, d'énergie irrésistible et de complicité puissante, toute force obéissant à une volonté unique et formidable. Mais comment cette volonté s'exerce-t-elle? Par quels intermédiaires et par quels sous-ordres? Je l'ignore. Lupin garde son secret, et les secrets que Lupin veut garder sont, pour ainsi dire, impénétrables. La seule hypothèse qu'il me soit permis d'avancer, c'est que cette bande, très restreinte à mon avis, et d'autant plus redoutable, se complète par l'adjonction d'unités indépendantes, d'affiliés provisoires, pris dans tous les mondes et dans tous les pays, et qui sont les agents exécutifs d'une autorité que souvent ils ne connaissent même pas. Entre eux et le maître, vont et viennent les compagnons, les initiés, les fidèles, ceux qui jouent les premiers rôles sous le commandement direct de Lupin. Gilbert et Vaucheray furent évidemment au nombre de ceux-là. Et c'est pourquoi la justice se montra si implacable à leur égard. Pour la première fois, elle tenait des complices de Lupin, des complices avérés, indiscutables. Et ces complices avaient commis un meurtre. Que ce meurtre fût prémédité, que l'accusation d'assassinat pût être établie sur de fortes preuves, et c'était l'échafaud. Or, comme preuve, il y en avait tout au moins une, évidente. L'appel téléphonique de Léonard, quelques minutes avant sa mort. « Au secours, à l'assassin, ils vont me tuer !» Cet appel désespéré, deux hommes l'avaient entendu. L'employé de service et l'un de ses camarades, qui en témoignèrent catégoriquement. Et c'est à la suite de cet appel que le commissaire de police, aussitôt prévenu, avait pris le chemin de la villa Marie-Thérèse, escorté de ses hommes et d'un groupe de soldats en permission. Dès les premiers jours, Lupin eut la notion exacte du péril. La lutte si violente qu'il avait engagée contre la société entrait dans une phase nouvelle et terrible. La chance tournait. Cette fois, il s'agissait d'un meurtre, d'un acte contre lequel lui-même s'insurgeait, et non plus d'un de ces cambriolages amusants où, après avoir refait quelques rastaquaires, quelques financiers véreux, il savait mettre les rieurs de son côté et se concilier l'opinion. Cette fois, il ne s'agissait plus d'attaquer, mais de se défendre et de sauver la tête de ses deux compagnons. Une petite note que j'ai recopiée sur un des carnets où il expose le plus souvent et résume les situations qui l'embarrassent nous montre la suite de ses réflexions. Tout d'abord, une certitude. Gilbert et Vaucheray se sont joués de moi. L'expédition d'Anguin, en apparence destinée au cambriolage de la villa Marie-Thérèse, avait un but caché. Pendant toutes les opérations, ce but les obséda. Et sous les meubles, comme au fond des placards, ils ne cherchaient qu'une chose, et rien d'autre, le bouchon de cristal. Donc, si je veux voir clair dans les ténèbres, il faut avant tout que je sache à quoi m'en tenir là-dessus. Il est certain que pour des raisons, ce mystérieux morceau de verre possède à leurs yeux une valeur immense. Et non pas seulement à leurs yeux, puisque cette nuit, quelqu'un a eu l'audace et l'habileté de s'introduire dans mon appartement pour dérober l'objet en question. Ce vol, dont il était victime, intriguait singulièrement Lupin. Deux problèmes également insolubles se posaient à son esprit. D'abord, quel était le mystérieux visiteur? Gilbert seul, qui avait toute sa confiance et lui servait de secrétaire particulier, connaissait la retraite de la rue Matignon. Or, Gilbert était en prison. Fallait-il supposer que Gilbert, le trahissant, avait envoyé la police à ses trousses? En ce cas, comment, au lieu de l'arrêter, lui, Lupin, se fût-on contenté de prendre le bouchon de cristal? Mais il y avait quelque chose de beaucoup plus étrange. En admettant que l'on eût pu forcer les portes de son appartement, et cela il devait bien l'admettre, quoique nul indice ne le prouvât, de quelle façon avait-on réussi à pénétrer dans la chambre? Comme chaque soir, et selon une habitude dont il ne se départait jamais, il avait tourné la clé et mis le verrou. Pourtant, fait irrécusable, le bouchon de cristal disparaissait sans que la serrure et le verrou eussent été touchés. Et bien que Lupin se flattât d'avoir l'oreille fine, même pendant son sommeil, aucun bruit ne l'avait réveillé. Il chercha peu. Il connaissait trop ces sortes d'énigmes pour espérer que celles-ci puissent s'éclaircir autrement que par la suite des événements. Mais, très déconcerté, fort inquiet, il ferma aussitôt son entresol de la rue Matignon en se jurant qu'il n'y remettrait pas les pieds. Et tout de suite, il s'occupa de correspondre avec Gilbert et Vaucheray. De ce côté, un nouveau mécompte l'attendait. La justice, bien qu'elle ne pût établir sur des bases sérieuses la complicité de Lupin, avait décidé que l'affaire serait instruite non pas en Seine-et-Oise, mais à Paris, et rattachée à l'instruction générale ouverte contre Lupin. Aussi, Gilbert et Vaucheray furent-ils enfermés à la prison de la Santé. Or, à la Santé comme au palais de justice, on comprenait si nettement qu'il fallait empêcher toute communication entre Lupin et les détenus qu'un ensemble de précautions minutieuses était prescrit par le préfet de police et minutieusement observé par les moindres subalternes. Jour et nuit, des agents éprouvés, toujours les mêmes, gardaient Gilbert et Vaucheray et ne les quittaient pas de vue. Lupin, qui à cette époque ne s'était pas encore promu, honneur de sa carrière, au poste de chef de la sûreté, et qui, par conséquent, n'avait pu prendre au palais de justice les mesures nécessaires à l'exécution de ses plans, Lupin, après 15 jours de tentatives infructueuses, dut s'incliner. Il le fit, la rage au cœur, et avec une inquiétude croissante. « Le plus difficile dans une affaire, dit-il, souvent ce n'est pas d'aboutir, c'est de débuter. En l'occurrence, par où débuter? Quel chemin suivre ? » Il se retourna vers le député Daubrec, premier possesseur du bouchon de cristal, et qui devait probablement en connaître l'importance. D'autre part, comment Gilbert était-il au courant des faits et des gestes du député Daubrec ? Quels avaient été ses moyens de surveillance ? Qui l'avait renseigné sur l'endroit où Daubrec passait la soirée de ce jour ? Autant de questions intéressantes à résoudre. Tout de suite après le cambriolage de la villa Marie-Thérèse, Daubrec avait pris ses quartiers d'hiver à Paris et occupé son hôtel particulier, à gauche de ce petit square Lamartine qui s'ouvre au bout de l'avenue Victor Hugo. Lupin, préalablement camouflé, l'aspect d'un vieux rentier qui flâne, la canne à la main, s'installa dans ces parages, sur les bancs du square et de l'avenue. Dès le premier jour, une découverte le frappa. Deux hommes, vêtus comme des ouvriers, mais dont les allures indiquaient suffisamment le rôle, surveillaient l'hôtel du député. Quand Daubrec sortait, il se mettait à sa poursuite et revenait derrière lui. Le soir, sitôt les lumières éteintes, il s'en allait. À son tour, Lupin les fila. C'étaient des agents de la sûreté. « Tiens, tiens, voici qui ne manque pas d'imprévu. Le Daubrec est donc en suspicion. » Mais le quatrième jour, à la nuit tombante, les deux hommes furent rejoints par 6 autres personnages qui s'entretinrent avec eux dans l'endroit le plus sombre du square Lamartine. et parmi ces nouveaux personnages, Lupin fut très étonné de reconnaître, à sa taille et à ses manières, le fameux Prasville, ancien avocat, ancien sportman, ancien explorateur, actuellement favori de l'Élysée, et qui, pour des raisons mystérieuses, avait été imposé comme secrétaire général de la préfecture. Et brusquement, Lupin se rappela. 2 années auparavant, il y avait eu, place du Palais Bourbon, un pugilat retentissant entre Prasville et le député Daubrecq. La cause, on l'ignorait. Le jour même, Prasville envoyait ses témoins. Daubrecq refusait de se battre. Quelque temps après, Prasville était nommé secrétaire général. « Bizarre, bizarre !» dit Lupin, qui demeura pensif tout en observant le manège de Prasville. À 7 heures, le groupe de Prasville s'éloigna un peu vers l'avenue Henri-Martin. La porte d'un petit jardin qui flanquait l'hôtel vers la droite livra passage à Daubrecq. Les deux agents lui emboîtèrent le pas et, comme lui, prirent le tramway de la rue Tête-Boue. Aussitôt, Prasville traversa le square et sonna. La grille reliait l'hôtel au pavillon de la concierge. Celle-ci vint ouvrir. Il y eut un rapide conciliabule après lequel Prasville et ses compagnons furent introduits. « Visite domiciliaire, secrète et illégale, » dit Lupin. La stricte politesse eût voulu qu'on me convoquât. Ma présence est indispensable. Sans la moindre hésitation, il se rendit à l'hôtel dont la porte n'était pas fermée. Et passant devant la concierge qui surveillait les alentours, il dit, du ton pressé de quelqu'un que l'on attend, « Ces messieurs sont là ?»«
Eh oui, dans le cabinet de travail. »
Son plan était simple. Rencontré, il se présentait comme fournisseur. Prétexte inutile. Il put, après avoir franchi un vestibule désert, entrer dans la salle à manger, où il n'y avait personne, mais d'où il aperçut, par les carreaux d'une baie vitrée qui séparait la salle du cabinet de travail, Prasville et ses 5 compagnons. Prasville, à l'aide de fausses clés, forçait tous les tiroirs. Puis il compulsait tous les dossiers, pendant que ses 4 compagnons extrayaient de la bibliothèque chacun des volumes, secouaient les pages et vérifier l'intérieur des reliures.
Décidément, se dit Lupin, c'est un papier que l'on cherche. Des billets de banque, peut-être.
Prasville s'exclama.
Quelle bêtise! Nous ne trouvons rien!
Mais sans doute ne renonçait-il pas à trouver, car il saisit tout à coup les 4 flacons d'une cave à liqueur ancienne, ôta les 4 bouchons et les examina.
Allons bon, le voilà qui s'attaque lui aussi à des bouchons de carafe. Il ne s'agit donc pas d'un papier? En vrai, je n'y comprends plus rien.
Ensuite, Prasville souleva et scruta divers objets. Et il dit
« Combien de fois êtes-vous venu ici ?»«
6 fois l'hiver dernier, »
lui fut-il répondu.
« Et vous avez visité à fond ? Chacune des pièces et pendant des jours entiers ?» puisqu'il était en tournée électorale.
Cependant...
Il n'a donc pas de domestique pour l'instant?
Non, il en cherche. Il mange au restaurant et la concierge entretient le ménage tant bien que mal. Cette femme nous est tout dévouée.
Durant près 1 heure et demie, Prasville s'obstina dans ses investigations, dérangeant et palpant tous les bibelots, mais en ayant soin de reposer chacun d'eux à la place exacte qu'il occupait. À 9 heures, les 2 agents qui avaient suivi Daubrecq firent irruption.
« Le voilà qui revient !»«
À pied ?»«
À pied !»«
Nous avons le temps ?»«
Oh oui !»
Sans trop se hâter, Prasville et les hommes de la préfecture, après avoir jeté un dernier coup d'œil sur la pièce et s'être assurés que rien ne trahissait leur visite, se retirèrent. La situation devenait critique pour Lupin. Il risquait, en partant, de se heurter à Daubrecq, en demeurant de ne plus pouvoir sortir. Mais ayant constaté que les fenêtres de la salle à manger lui offraient une sortie directe sur le square, il résolut de rester. D'ailleurs, l'occasion de voir Daubrecq d'un peu près était trop bonne pour qu'il n'en profitât point. Et puisque Dobrec venait de dîner, il y avait peu de chance pour qu'il entrât dans cette salle. Il attendit donc, prêt à se dissimuler derrière un rideau de velours qui se tirait au besoin sur la baie vitrée. Il perçut le bruit des portes. Quelqu'un entra dans le cabinet de travail et ralluma l'électricité. Il reconnut Dobrec. C'était un gros homme, trapu, court d'encolure, avec un collier de barbe grise, presque chauve, et qui portait toujours, car il avait les yeux très fatigués, un binocle à verre noir par-dessus ses lunettes.